Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Cinémag. Je suis Magali et je suis encore en compagnie de Quentin, puisque nous allons attaquer le deuxième volet de notre émission sur le cinéma et les séries queer. On va approfondir un petit peu ce qu'on avait pu voir dans la première émission.
Tout à fait.
Et cette fois, on va aborder un peu la deuxième partie que nous voulions traiter, qui était un peu la question de vers la normalisation et l'ouverture à d'autres questions un petit peu plus élargies que celle de l'homosexualité ou de des drag queens, du travestissement, et vraiment les questions de genre. Alors peut-être que, Quentin, tu pourrais un petit peu redire un petit peu ce que sont les problématiques liées au genre, puisque peut-être que certains n'ont pas écouté la première émission. Je vous invite à aller la réécouter en podcast, d'ailleurs.
Oui, elle est vraiment très très bien, vous n'allez rien louper. Allez-y, vous n'allez pas regretter.
Alors, donc, oui, si tu pouvais resituer un petit peu que sont les problématiques autour du genre.
Alors, je vais refaire rapidement un petit point vocabulaire. Non, on va parler de cisgenre et de transgenre. Une personne cisgenre, c'est la majorité de la population en fait. Une personne est cisgenre, quand son identité de genre auquel elle s'identifie concorde avec l'identité qu'on lui a donnée à sa naissance sur la base de ses organes génitaux. Donc, un homme qui a un genre d'homme et qui a des organes génitaux masculins est un homme cisgenre. Voilà, donc pareil pour les femmes cisgenres. Et il y a aussi le cas des personnes transgenres. Donc une personne transgenre, son identité de genre ne concorde pas avec l'identité qu'on lui a accordée quand cette personne était, enfin à sa naissance,
née, ouais.
Sur la base, encore une fois, de ses organes génitaux. Donc par exemple, une personne avec un genre de femme, mais qui a des organes génitaux masculins, sera une femme transgenre, dans ce cas inversement pour les hommes transgenres.
Alors oui, du coup c'est assez clair, mais je pense qu'aujourd'hui il y a même un élargissement avec des adolescents qui ne se retrouvent ni dans le genre féminin ni dans le genre masculin, mm-hmm. et qui envisagent l'identité un peu comme un spectre avec un curseur qui pourrait bouger.
En effet, et pas que ces adolescents, hein, même il y a des travaux de sociologie même, ouais. qui commencent à conceptualiser le genre comme un spectre,
ouais.
et plus comme un choix binaire en fait, donc entre homme ou femme.
Mais c'est ce que certaines personnes ont du mal à assimiler, parce que pendant tellement de siècles, on a eu la bipartition des sexes et du genre qui se recroisaient.
Bien sûr, hein, c'est une remise en cause d'un schéma qu'on connaît depuis littéralement la nuit des temps, mais c'est important quand même de le faire bouger un petit peu, de le remettre en question. Je veux dire, on pourrait faire le parallèle avec le féminisme, par exemple.
Oui, exactement.
Depuis l'aube des temps, la femme est soumise à l'homme. Et il est important que ça bouge un petit peu quand même pour plus d'inclusivité. Donc oui, toutes ces personnes qui ne se reconnaissent ni dans le genre masculin ni dans le genre féminin, mais un petit peu entre les deux, on va les appeler non-binaires en fait. Donc tout simplement parce qu'elles se reconnaissent pas dans la binarité du genre qu'on nous apprend depuis que l'on est petit.
Et je pense que ça c'est une vraie nouveauté. Ça fait seulement 10-20 ans que c'est un peu formulé comme tel.
Clairement. Et puis même 10-20 ans, on en entend vraiment parler que depuis à peine 10 ans. Hein,
ouais.
Franchement, c'est une des... C'est un des termes de vocabulaire qui est le plus récent même au sein de la communauté.
Au niveau de ce spectre de gens, moi je m'étais beaucoup intéressée. Enfin, j'avais remarqué que parce qu'on est souvent très ethnocentré sur notre culture, et en fait dans d'autres cultures on avait déjà cette partition qui était un peu multiple, notamment chez les Amérindiens. Je sais pas si t'avais vu ça. Moi j'avais vu un documentaire qui montrait que en fait chez eux il y avait 4 genres. Il y avait les femmes femmes, les femmes-hommes, les hommes-femmes et les hommes-hommes. En fait, ils avaient déjà cette conscience que parfois, il y avait des entre-deux, en fait.
Oui, c'est exactement ça. On a tendance à penser que le schéma homme ou femme, il est là depuis la nuit des temps, que c'est quelque chose qui ne peut pas bouger et tout. Mais il ne faut pas oublier que c'est le cas seulement dans notre culture. C'est vrai que je ne connais pas le cas particulier des Amérindiens, mais je sais que dans beaucoup de tribus indigènes en Amazonie, par exemple, ou en Australie, en fait... ils n'ont pas la même conception du genre que nous. Et il existe un troisième genre.
Exactement.
Une personne avec un genre neutre.
Oui.
Ou alors, un genre qui mélange un petit peu la masculinité et la féminité. Oui, en effet, on trouve d'autres conceptions du genre.
Voilà.
Tout à fait.
Mais comme c'est un peu la culture occidentale qui a dominé et qui a exporté et qui dominait dans le cinéma,
Bien sûr.
Même si maintenant en Inde on a beaucoup de films aussi produits là-bas, mais c'était cette vision qui l'emportait. Aujourd'hui parle beaucoup plus de ces problématiques, on les voit. Il y a une vraie visibilité des communautés queer et LGBT. Donc, on avait expliqué déjà l'acronyme lesbien, gay, trans, bi et queer. Et le mot queer qui recouvrait un petit peu tout ça, tout ce qui n'est pas hétérosexuel, cisgenre.
Exactement.
Et quand on a préparé cette émission, on en a notamment parlé, Quentin, du fait qu'il y avait une sorte de discrimination positive, parfois, de pinkwashing, comme tu l'as appelé.
En effet.
Soulevé, c'est un concept de toute façon. Mm-hmm. Je ne sais pas de qui, d'ailleurs.
Alors, je ne sais pas qui l'a mis en avant. Alors, vous connaissez peut-être le greenwashing,
oui.
Donc, qui est la manie des entreprises, surtout, à se faire passer pour écolo,
ouais.
En sortant, par exemple, une collection fashion dite écolo, avec
ouais,
des vêtements
bio,
recyclés.
Le label bio.
Par exemple, le label bio, oui.
Rien qu'on peut chercher bien moins loin, c'est-à-dire McDonald's qui passe son logo de rouge à vert.
Par exemple, on a des milliers d'exemples de greenwashing. Eh bien,
ouais.
Le pinkwashing, c'est un peu pareil, sauf que vous remplacez écolo par LGBT. Donc c'est cette manie des entreprises ou des personnalités politiques, par exemple, ou des films, des réalisateurs, à vouloir se faire bien voir par la communauté
ouais.
LGBT en mettant des personnages gays, trans. Mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est une volonté de façade, en fait. Il n'y a pas un
ouais.
réel traitement de la question. Et donc... Ces personnages, on les appelle des tokens en anglais. Donc token, c'est une breloque, littéralement.
Mm-hmm.
Donc c'est un personnage...
Fantoche, un peu des poupées.
Exactement, qui est là juste parce qu'il est gay. Mais au fond, il n'a pas vraiment de vraie profondeur.
Ouais.
Il n'a pas...
Le personnage n'est pas travaillé de la même façon à égalité
exactement.
Avec des personnages hétérosexuels.
Il est surtout là pour dire, hey, regardez, on est LGBT friendly. On est ouvert. Voilà, venez chez nous.
Alors justement, on va donner quelques exemples de ces films ou séries, d'ailleurs, puisque là on entre un peu dans une période où la série a un peu supplanté le cinéma à proprement parler. Mais je pense notamment quand même à un ancien du cinéma, à David Lynch. Je pense à Mulholland Drive qui date de 2001, où on a il y a une problématique de double féminin, mais on a le personnage joué par Naomi Watts qui attention spoiler, donc qui s'imagine rencontrer une autre femme avec qui il y a une attirance sexuelle, elle noue une relation, puis elle se rend compte que c'est un peu son double. Enfin voilà, il y a des choses très... des questionnements un petit peu sur l'identité chez Lynch, mais on a l'impression que justement, enfin moi en tout cas, mon impression c'était qu'il y a une part un petit peu d'érotisation des gays, des lesbiennes, et que c'est presque présenté comme quelque chose à expérimenter dans sa vie.
Oui, c'est ça. Et puis finalement, dans ce film, l'héroïne, ça se passe un petit peu dans sa conscience. Donc
oui.
Le réalisateur, il peut dire « Oui, regardez, on essaye de faire un truc un peu plus inclusif. Regardez, c'est une femme qui est attirée par les femmes. » Mais d'un autre côté, il peut tout à fait dire « Non, mais c'est juste une hallucination.
Oui.
Hein, il se passe rien.
Ouais,
d'accord,
exactement.
Calmez-vous. » Donc
oui.
C'est un petit peu ce double discours, cette dissonance cognitive qui est un petit peu la marque du pinkwashing dans les films,
ouais,
en
exactement.
Tout cas.
Exactement. Et alors, je pense à d'autres... après, on peut discuter, hein, parce que bon, ils n'ont... eux-mêmes ne se labellisent pas pinkwashing,
ah non, bien
sûr.
Hein.
Alors justement, en parlant de Naomi Watts dans Mulholland Drive, j'ai vu une série sur Netflix il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Gypsy. Je ne sais pas si...
J'ai pas vu cette série, non.
Et où elle joue une psychiatre, je crois, ou psychologue en tout cas, qui écoute une patiente et qui en fait s'amourache d'elle, enfin fait l'inverse d'un transfert. Hein, d'habitude, c'est plutôt le patient qui tombe amoureux et elle devient obsédée par cette patiente. Alors qu'elle était hétérosexuelle à la base, là, elle ressent de l'attirance, et il y a tout un jeu comme ça de séduction, et elle va tomber amoureuse de cette femme, et je trouvais que c'était à la fois beau, à la fois traité avec du réalisme et de la pudeur, mais quand même, on en avait parlé dans la première émission, un peu le fameux male gaze, le regard masculin porté sur deux femmes qui sont... où on sent en fait le regard hétérosexuel, carrément, sur une relation lesbienne.
Et oui, ça... c'est vraiment le problème de, en fait, de beaucoup de films, finalement, qui ont des personnages LGBT ou qui parlent de questions LGBT. C'est-à-dire que le réalisateur n'est pas forcément hyper informé sur les enjeux de cette communauté. Et donc, il applique, en fait, ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, c'est un regard hétérosexuel, un regard cisgenre, un regard masculin.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est surtout hyper présent pour les films qui parlent de lesbiennes. Mais la plupart... pour le moment, des films qui parlent de lesbiennes sont... Enfin, les lesbiennes sont plutôt érotisées. Elles sont plutôt là pour satisfaire un fantasme masculin, plus que parler d'une histoire de lesbienne pour les lesbiennes,
ouais,
par exemple.
Oui, exactement. Et alors, je pensais à d'autres séries où on a un peu, tu l'évoquais tout à l'heure, les tokens, c'est-à-dire un peu le personnage caution de LGBT-friendly, un petit peu comme on l'avait avec les personnes racisées, avec... Il y avait le noir, l'arabe de service, comme on dit péjorativement. Qui n'avait pas un rôle principal en gros, et, mais était là pour quand même la caution diversité. Justement, on est sur Diversité FM.
Exactement.
Mais pour le coup, c'était une diversité un petit peu superficielle. Alors, je pensais notamment à une série Netflix qui s'appelle How to Get Away with Murder, donc abrégée en Murder pour aller plus vite, avec l'actrice noire Viola Davis qui a joué dans plein de films et qui est vraiment une immense actrice. Donc, déjà, le personnage principal est porté par une femme afro-américaine qui est avocate, en plus qui a des problèmes d'alcoolisme, ça croise vraiment plein de problématiques, c'est super intéressant. Et elle a ses petits protégés, ses petits élèves, dont justement, on en a plusieurs issus de la diversité, et on a notamment un personnage homosexuel, gay, qui est en couple, mais donc il fait partie quand même des personnages principaux, mais on a toujours cette impression de quota, de il faut un personnage noir, il faut une femme, il faut, tous les personnages issus de minorités, et où ça fait un petit peu artificiel.
Je vois tout à fait le sentiment, même si j'ai pas regardé précisément cette référence, je vois tout à fait le sentiment que j'ai retrouvé dans beaucoup de films, concrètement.
Peut-être que t'as vu la série Riverdale.
Oui, en effet.
Voilà, qui est vraiment la série un peu ado à la mode. Enfin, il y en a plein, mais... Et Riverdale, pour avoir regardé un petit peu, donc il y a des personnages qui deviennent... Non, il y avait un homosexuel dès le départ, qui est un peu le meilleur ami, mais c'est pareil, on le voit pas tout le temps. Il est un petit peu en retrait, Kevin. Et il y a le personnage de... Alors, je ne me souviens plus, un petit peu la peste avec les cheveux roux, tu vas peut-être m'aider.
Je me rappelle plus de son nom.
Qui, qui est la jumelle là, de Jason, et donc c'est Jason et je ne sais plus. Bref, qui devient... lesbienne. Donc on a un petit peu cette caution LGBT friendly comme tu disais. Alors moi il y a quelque chose qui m'a intéressé, parce que est-ce que tu sais d'où vient Riverdale, d'où vient cette série?
Pas du tout.
Alors elle est inspirée en fait de comics, et ça s'appelait Archie Comics, donc Archie, Archibald, le personnage principal.
Ah d'accord, ok.
Qui d'ailleurs lui-même est issu d'une minorité puisqu'il est roux.
Donc le fameux roussisme, on n'en parlera jamais assez.
On salue nos amis roux et rousses, mais moi je pense que cette série qui met pour une fois un héros roux masculin, parce que les rousses c'était très érotisé je trouve, les rousses flamboyantes, un peu sexy. Par contre les mâles, les hommes roux, je trouve que il y a vraiment une discrimination. On va toujours mettre un brun ténébreux ou un blond à la Brad Pitt.
C'est vrai qu'on en voit assez peu, à part Ronald Weasley, j'en ai.
Oui, mais tu vois, il est.
Mais encore une fois, Ronald Weasley, ouais. Oui, c'est un petit peu le meilleur ami de service, voilà. Un petit peu l'idiot de service. C'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure représentation des roux, quoique il est très attachant.
Oui, il est très attachant. Ça a commencé, je trouve, à se débloquer avec Harry Potter, justement, sur les roux, mais sur les garçons roux. En plus, il a une évolution qui est intéressante. Ron, il part un peu de c'est un peu le pas le geek, mais j'allais dire celui qui est pas adapté. C'est pour ça qu'il se retrouve avec Harry. Et finalement, il devient un beau jeune homme qui va séduire Hermione.
C'est ça, oui. Il devient très courageux. Il a des exploits et tout.
En fait, Harry n'est rien sans ses deux acolytes. Donc voilà, ça avait
surtout
commencé.
Surtout sans Hermione.
Mais là, dans Riverdale, alors pour le coup, ça n'est pas un vrai roux, l'acteur, mais il se teint en roux. Et c'est vraiment le prototype du beau gosse avec les muscles qui est roux. Et donc, je trouve que ça a donné une nouvelle image. Parenthèse sur les roux refermée. Mais je voulais évoquer le personnage de Jughead. Si tu vois, donc celui qui a son bonnet là en forme de couronne, qui est assez spécial et tout. Et donc, dans la série Riverdale, il est hétéro cisgenre. Il sort avec Betty, qui est la meilleure amie d'Archie. Et en fait, il est intéressant de noter que dans la bande dessinée originale, le comics, Jughead est un personnage asexué et même asexuel.
Ah ouais, asexué.
Oui, enfin asexué dans le sens où il va jamais parler de relations sexuelles. Enfin, quand je dis quand je dis asexué, c'est-à-dire qu'on va totalement lui enlever la dimension sexuelle.
Ah d'accord. Okay. D'accord.
C'est pas dans le sens où voilà, il a aucun sexe déterminé.
J'étais vraiment sur cette dimension-là.
Ouais, non, il est garçon dans le genre, mais il est asexuel. Il n'a pas de relation sexuelle.
D'accord.
J'ai trouvé ça dommage que la série ait zappé cette. Ils en ont d'ailleurs parlé à l'acteur qui, dans une interview, disait qu'en effet, c'était dommage peut-être, mais que bah, pour les besoins du scénario, Betty et Jughead vivaient des choses ensemble et que voilà, c'était aussi bien.
Oui, on peut comprendre que pour des facilités de tournage ou d'adaptation, on puisse effacer quelques enjeux comme ça. Mais après, c'est vrai que c'est dommage parce que, la communauté asexuelle souffre déjà d'un gros manque de représentation. Hein, je veux dire, encore plus que la communauté gay ou lesbienne. Hein.
Exactement. Et là, tu vois, on n'en avait pas parlé jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a pas de personnages asexuels ou alors très peu.
C'est vrai. Mais même aujourd'hui, je pense que les gens ne savent pas que ça existe.
Oui, certains ne savent pas.
Alors, on va peut-être expliquer le terme asexuel. Une personne est asexuelle quand elle ne désire pas avoir de relations sexuelles. Bon, bien sûr,
mais
il y a des nuances.
Mais elle peut être romantiquement attirée
évidemment,
ou amoureuse.
Elle peut avoir des relations romantiques, mais c'est vrai que il n'y aura pas cette dimension sexuelle.
Et c'est vrai que c'est très récent, là, la façon d'en parler. Je suis notamment une youtubeuse. Bon, on peut critiquer certaines de ses prises de position sans doute, mais Antastasia, je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
Je vois qui c'est, oui.
Qui a les cheveux bleus souvent, et voilà. Et qui est féministe, qui va traiter de plein de sujets, et qui se dit queer d'ailleurs, parce que je crois qu'elle est bisexuelle. Enfin, alors elle est bisexuelle. Elle peut avoir.
On peut dire biromantique, du
voilà,
coup.
Voilà, et ben exactement, c'est ce que j'allais dire. Elle est biromantique, mais elle est asexuelle.
D'accord.
Et c'est-à-dire que dans sa vie, elle a eu des relations. Mmh. Elle a testé et ça ne lui a pas plu du tout. Et en fait, là, elle ne vit que des relations romantiques.
D'accord, et bien pourquoi pas.
Voilà, donc, et elle a beaucoup souffert de ça parce qu'elle est un petit peu plus jeune que moi, mais voilà, elle arrive sur les 30 ans et elle ne savait pas ce que c'était en fait, ce qu'elle ressentait. Les forums et l'arrivée d'internet l'a aidée parce qu'elle a pu trouver des adolescents qui décrivaient les mêmes choses qu'elle.
Bah d'ailleurs, je rebondis sur ce problème. Ouais. C'est un petit peu toute la problématique du besoin de cinéma queer. C'est-à-dire que cinéma queer, il est là pour donner des points de vue, mais il est aussi là pour dire que, ça existe, tu n'es pas seul.
Exactement.
Par exemple, s'il y avait eu plus de personnages asexuels au cinéma, eh bien, cette femme aurait pu se dire, eh bien, ah oh, bah tiens, c'est comme moi, je me sens comme ça aussi, je suis sûrement asexuelle. Elle aurait pu se sentir beaucoup moins seule et du coup s'assumer beaucoup plus facilement.
Ouais, exactement. Et je pense que c'est vraiment ça aussi l'enjeu. Et l'enjeu de cette émission, c'était aussi, parce que c'est vrai qu'on va survoler certains films. Hein,
bien sûr, on peut pas tout traiter.
Mais l'enjeu, c'est aussi de donner des références aux gens. Et d'ailleurs, ça ne s'adresse bien évidemment pas que aux personnes queer, LGBT.
Évidemment.
Hein,
ouais.
C'est vraiment aussi pour éduquer un peu les cisgenres.
C'est ça. Ça vous donne d'autres points de vue que vous n'avez pas d'habitude. Donc, je pense que...
L'ouverture d'esprit, la curiosité... Ouais. Et puis peut-être aussi faire face aux nouvelles problématiques que les adolescents posent beaucoup plus de nos jours.
Exactement.
Alors, j'ai également pensé à la série Sense8. Est-ce que tu l'as vue ?
Alors, elle est dans ma liste Netflix, je ne l'ai pas encore vue.
Il faut que tu la vois.
Enfin, vue plutôt.
Il faut que tu la vois. Alors là, pour le coup, il y a une sorte de fond de... Je ne vais pas te spoiler, alors, si tu ne l'as pas vue. Mais en gros, on a des personnages qui sont un petit peu connectés entre eux. Et tous les personnages sont très différents, issus de pays d'origine différente, de continents différents, et c'est vraiment fait exprès. Donc, il y a une sorte de connexion, pas magique, mais bon, bref, il y a un truc qui n'est pas réaliste hein, dans la série. Et ils ont aussi des orientations sexuelles différentes. Donc on a des gays, des lesbiennes, une femme trans également. Donc discrimination positive, on peut se demander est-ce que c'est un passage obligé, est-ce que c'est justement positif comme son nom l'indique. Ça l'a fait aussi pour les femmes, hein, pour que la parité arrive petit à petit. Et j'ai deux autres séries à citer si ça vous intéresse un petit peu. Il y a la série Gentleman Jack, pareil, qui était sur Netflix. Et où c'est... Alors ça se passe, c'est un film en costume, ça se passe au 18e siècle et c'est une femme qui en fait s'habille en homme. Moi ça m'a fait penser à George Sand ou à des autrices comme ça qui prient les traits d'un homme pour évoluer dans la société, mais même en dehors de leur orientation sexuelle parfois. Alors là je crois qu'elle est lesbienne dans la série. Mais voilà, elle se conduit comme un homme, elle hérite du château et elle prend les rênes de la famille comme un homme. Et donc c'est assez intéressant de voir ça. Et puis la dernière, bon, je te passerai la parole aussi après, là je monopolise un peu, mais...
C'est pas grave, c'est intéressant. Donc.
Je pense qu'il y a une série que tu dois connaître, puisque tout le monde en parle, c'était la chronique de Bridgerton.
Alors, je la connais.
Ouais, parce que voilà, ça a été le phénomène,
il y a
eu un succès fou, ils s'y attendaient pas. C'est une série de Shonda Rhimes qui est connue là, dans le milieu pour créer plein de séries, enfin, elle est productrice. Et là, pour le coup, on sent bien le regard féminin.
Mmh.
Et... Alors, ce qui m'intéresse, moi, dans la chronique de Bridgerton, il y a des gens qui détestent et d'autres qui adorent. C'est que c'est un monde très coloré, ça se mange comme un petit bonbon, et c'est dans une sorte de passé fantasmé et qui n'existe pas. Donc, une sorte d'utopie, comme tu disais tout à l'heure, ça n'existe pas, c'est un lieu et un temps qui n'existent pas. Mais on a l'impression que ça fait un peu 18e niveau mode. Il y a des perruques.
Oui, de ce que j'ai pu voir, oui.
Il y a des belles robes. 18e ou 19e, élisabétain, un peu anglais, un peu orgueil et préjugé.
C'est ça, oui.
Donc, il y a deux saisons pour le moment. Et moi, ce qui m'a séduite tout de suite, alors je regarderai pas à longueur de journée ça, parce que c'est un petit peu cucu, fleur bleue. J'ai adoré le fait qu'on revisite un passé qui n'existe pas, donc il y a une sorte de pacte avec le spectateur, hein. C'est pas historique, faut pas le prendre au premier degré, mais la reine, elle est asiatique, il y a des personnages je sais pas, d'origine afro-américaine, enfin en tout cas noire, métissée.
Je crois que la l'héroïne principale est d'origine indienne.
Oui, dans la saison 2.
Ah, dans la saison 2,
pardon. Par contre, dans la première... Mais à chaque fois, c'est des couples mixtes. Ça, c'est très intéressant.
D'accord.
Ils marient... Ouais.
Pourquoi pas.
Et du coup, j'ai trouvé qu'il y a aussi un personnage homosexuel, il me semble, dans la fratrie, justement, des Bridgerton. Et voilà, on sent que c'est vraiment la série qui surfe sur la vague LGBT friendly et diversité.
Mais avec un twist vintage.
Exactement. Voilà, donc moi je trouvais que c'était quand même sympathique. Alors on va justement peut-être passer dans un deuxième temps à ce fameux élargissement de la question LGBT et la question de la transidentité, du genre et de la sexualité qu'on a, donc asexualité, hein, avec le préfixe A qui signifie l'absence de...
Hein, le A privatif en effet.
Voilà, parce que là, plus loin, c'est que
ah oui, non.
ce n'est pas la même chose. Voilà, donc là je te laisse peut-être la main un petit peu, nous présenter ça.
Eh bien oui, en effet, l'essentiel des films et des séries ayant des personnages LGBT aujourd'hui parlent d'homosexualité masculine. Du coup, ça concorde historiquement avec justement l'histoire de la lutte et des mouvements LGBT qui ont commencé tout d'abord par revendiquer la fin de la discrimination envers les hommes gays, puis envers les femmes lesbiennes. Mais quand je dis gays, c'est bien sûr les hommes gays, mais qui sont blancs, qui sont bourgeois. Ouais. Donc ça va petit à petit. Hein. C'était pas hyper, hyper inclusif. On est dans une situation, une sorte de statu quo où l'homosexualité, que ce soit masculine ou féminine, est assez bien admise dans les pays occidentaux, dans la majorité des pays occidentaux, qui, dans une majorité, reconnaissent le mariage pour tous, reconnaissent le droit des couples homosexuels à adopter des enfants.
Il y a eu d'autres avancées, notamment les droits, c'est très récent, je crois, le don du sang.
Cette année, il existait une discrimination au don du sang pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qui devaient, pour donner leur sang, avoir une période d'abstinence sexuelle, en fait.
Ouais.
Donc, de 2-3 mois, qui avait été auparavant 6 mois, qui avait été auparavant 1 an, je crois.
Ouais. Et puis, il fallait que ce soit monogamie, un seul partenaire. Donc, c'était très, très contraignant et ça décourageait les bonnes volontés.
C'est ça. Et donc aujourd'hui, l'homosexualité est plutôt bien admise, mais du coup, il y a des enjeux différents parce que la communauté LGBT est très disparate tout de même. Donc, notamment, les enjeux quand même des femmes lesbiennes en termes de représentation parce qu'on les voit très peu, mais aussi les personnes transgenres, les personnes bisexuelles, les personnes asexuelles, ou même encore les personnes intersexes.
C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça, mais
c'est vrai.
Ce qu'on appelait hermaphrodite.
Ce qu'on pouvait appeler, ce qu'on appelle traditionnellement hermaphrodite. Donc les personnes intersexes, c'est des personnes qui possèdent des caractéristiques caractéristiques sexuelles qui appartiennent aux deux sexes. Donc par exemple, Il y a des femmes, donc intersexes, qui ont un appareil reproducteur féminin, mais qui, à la place des ovaires, ont des testicules.
Ou inversement.
Ouais.
On se rend compte qu'il y a un utérus ou des ovaires, alors qu'il y a un appareil génital masculin.
Exactement. La nature fait des fois, s'en mêle un peu les pinceaux, des fois.
Justement, certains disent que c'est aussi un biais de dire que la nature s'en mêle
peut-être,
les pinceaux.
Oui, en effet.
Et qu'en fait, ça a peut-être sa raison d'être. Et
c'est
que...
vrai que c'est une question qui vient à peine, enfin les scientifiques viennent à peine de se pencher dessus, hein. C'est vrai que c'est encore trop
alors
tôt
que
pour
ça
donner
existait depuis des années et que moi j'ai vu des documentaires de personnes intersexes qui justement portaient plainte ou en voulaient à leur famille ou au chirurgien parce que en naissant il fallait bien mettre sur l'état civil fille ou garçon. Et que bah, quand ils étaient intersexes, il fallait choisir. Et ils étaient opérés...
C'est ça, pire que ça, il y a des mutilations génitales sur les enfants et les bébés intersexes.
Oui.
Puisque comme il faut choisir un sexe pour l'état civil, eh bien les parents disent « bon, bah, celui-là, ce sera un garçon-garçon ». Donc du coup, on essaye de faire disparaître les ovaires, de faire disparaître les restes de vulve ou les...
Sauf que l'adolescent, à la puberté, parfois, va développer des caractéristiques qui lui sont étrangères et s'interroger et se croire anormal. Tout le...
C'est ça, parce que finalement,
psychologiquement,
un homme intersexe qui, admettons, a des ovaires à place des testicules, eh bien, comme c'est les testicules qui produisent la testostérone, il aura une puberté... il n'en aura pas trop, en fait, justement.
Il aura une puberté entre les deux. Enfin, en tout cas, il...
C'est ça, ou alors il faudra des injections de testostérone.
Et puis il y a la question de la fertilité aussi.
Il y a
plein de
questions.
C'est
une cause de stérilité.
Ouais. Donc ça c'est des questions qui viennent seulement sur le devant de la scène. Moi je sais que j'ai déjà fait un cours et je sais plus, il y avait un texte qui évoquait le cas de l'hermaphrodite ou même le mythe un peu.
C'est ça. Bah on l'a vu un petit peu en SVT au lycée pour le coup.
Il y a des animaux hermaphrodites.
Ouais c'est ça, mais même on l'a vu chez les humains en fait.
Ouais.
Et d'ailleurs mon sujet de bac. Je crois en SVT était là-dessus.
Ouais.
J'avais une bonne note en plus.
Il se vante.
Mais oui, tout ça pour dire que en effet, il n'y a pas que deux genres. Il n'y a pas que deux sexes aussi.
Exactement.
Il y a aussi tout un entre-deux.
Ouais, c'est ça. Et donc, justement, on va parler d'une série. Je te laisse introduire.
Eh bien, justement, on va parler de plusieurs séries qui mettent à l'honneur toutes ces problématiques qu'on ne voit pas souvent, qui essayent de le mettre sur le devant de la scène. Donc, en premier lieu, la série un petit peu référence, Sex Education. Donc, c'est une série créée par Laurie Nunn, qui a commencé à sortir en 2019. Donc, rapidement, l'histoire, c'est... on suit l'histoire d'un jeune adolescent, Otis Milburn, qui est le fils d'une sexologue mondialement reconnue, mais qui refuse les conseils de sa mère, qui est très intrusive, parce qu'il est vierge et qui parvient pas à se masturber. Mmh. Donc,
on rentre dans le vif du sujet, dès le début.
Voilà, d'où le titre Sex Education, donc éducation sexuelle en anglais. Par un concours de circonstances, il fait une sorte de thérapie improvisée, un petit peu à la terreur de l'école. Donc Adam, qui lui a des problèmes à éjaculer lors de ses relations sexuelles. Donc il règle un petit peu son problème en faisant apparaître des problèmes psychologiques qu'il a avec ses parents, notamment avec son père notamment. Et donc une jeune fille qui était avec Otis, Maeve, voit ça et se dit je crois qu'il y a du blé à se faire.
Toujours les capitalistes.
Exactement.
Qui mettent leur...
Et donc avec Otis, ils essayent de monter une sorte de cabinet de sexologie un petit peu
dans les toilettes abandonnées du lycée.
Exactement. Un petit peu en tsum-tsum, régler un petit peu les problèmes directement en rapport avec le sexe que se posent les adolescents. Et comme Otis est le fils d'une sexologue, il a un petit peu le rôle de l'expert dans
d'ailleurs
cette
j'adore
série.
Parce qu'on le voit écouter parfois parce que sa chambre, il y a une bouche d'aération qui donne sur le cabinet de psycho, enfin je sais plus si elle est psychologue ou psychiatre, mais
psychologue
sexuelle,
psychologue
ouais. Du coup il écoute un peu voilà ce qui se dit et c'est le paradoxe du personnage d'Otis, c'est qu'il est puceau, il est complètement vierge, il n'a pas eu d'expérience sexuelle, mais la théorie, il la maîtrise.
Exactement, on le voit même d'ailleurs potasser un bouquin sur le clitoris, sur l'orgasme féminin, d'ailleurs, pour donner des conseils par la suite.
Et c'est très drôle de le voir un peu professoral donner des conseils.
Exactement, donc comme vous en doutez, cette série, qui est devenue d'ailleurs extrêmement populaire, elle prend le problème du manque d'éducation sexuelle qui fait rage un petit peu dans tous les pays, concrètement, qui le traite à bras le corps et qui traite un petit peu de tous les sujets que peuvent se poser à l'adolescence concernant les relations sexuelles et même tout ce qu'il y a autour des relations sexuelles. Par exemple, dans la saison 1, il y a toute la problématique de l'avortement à un moment.
Oui, oui,
donc,
oui, il y a vraiment de la prévention en fait.
Exactement, ouais. C'est un petit peu un cours d'éducation sexuelle mis en fiction.
Et avec de l'humour.
Avec de l'humour, avec des personnages attachants, ouais. Des personnages complexes. C'est vraiment une très très bonne série, très très bien faite.
Mais j'adore aussi. Et puis alors attends, on en parle de Gillian Anderson qui joue la mère d'Otis.
Oh là là, elle est incroyable.
Donc pour resituer pour certains qui ne la connaîtraient pas ou pas son nom, c'est Scully dans X-Files. Et où je sais pas, elle a joué dans tellement de choses, mais elle est excellente.
Ah vraiment, elle est vraiment incroyable dans le rôle de la mère d'Otis. D'ailleurs, elle a un développement que je trouve très intéressant. Ouais. Très subtil aussi dans la série que
oui,
j'aime
puisque
beaucoup.
Elle-même se retrouve à avoir des problèmes. On va peut-être pas spoiler, c'est dommage.
On va pas trop spoiler, mais c'est vrai que... Et donc, parmi tous ces problèmes en rapport avec l'éducation sexuelle, il y a le problème... Tous ces questionnements concernant les relations entre personnes de même sexe, finalement. Et toute la relation avec le genre. Donc, on a évidemment des personnages pas hétéros, des personnages pas cisgenres. Donc, on a notamment le personnage d'Eric.
Oui, j'adore.
Donc, qui est un des personnages principaux, qui est un homme gay.
Gay, et puis qui a un look justement particulier, on peut en parler.
Ça, très c'est... coloré, très extravagant. Ce que je trouve très intéressant dans le personnage d'Eric, c'est qu'il est pas seulement gay, mais il est noir.
Oui.
Il est d'une famille d'origine
camerounaise.
Il me semble que c'est
ouais, Cameroun, puisqu'on a les tantes qui débarquent
c'est vrai,
à un moment.
C'est vrai. Du coup, il y a tout ce traitement de la question de l'homosexualité, mais en rapport avec la question l'homosexualité en Afrique, finalement l'homosexualité quand on est une personne noire, et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est finalement un point de vue qu'on retrouve peu. La plupart des personnages homosexuels dans les films sont blancs, donc blancs faits pour des sociétés majoritairement blanches, et c'est vrai qu'avoir ce point de vue là c'est très intéressant parce que notamment c'est dans son pays d'origine, le Cameroun, du coup, il y passe des vacances. Et là-bas, l'homosexualité est interdite.
Oui,
et je sais plus si elle est passible de mort, de peine de mort.
En tout cas, d'arrestation.
Au moins d'emprisonnement, ouais, quelque chose comme ça. Et c'est vrai, du coup, il se sent pas en sécurité. Il va quand même à une soirée queer, mais ça se fait en cachette. C'est un traitement très subtil de la chose,
ouais,
je trouve.
Trouvé. Et puis l'acceptation, parce que la famille d'Eric finalement est assez ouverte quand même, mais on sent qu'il y a du mal avec le fait que son fils se maquille.
C'est ça. C'est une famille, on va dire une famille un petit peu camerounaise, mais un petit peu occidentalisée.
Oui.
C'est-à-dire
British.
Que.
Oui, parce que ça se passe en Angleterre. C'est une
ça
série
se passe
anglaise.
En Angleterre.
Ça, c'est
en effet.
Aussi la nuance. C'est pas une série américaine et ça se sent.
Oui, ça se sent et c'est très rafraîchissant, je trouve, de pas avoir les États-Unis.
C'est plus européen. On se reconnaît un peu plus,
ouais. C'est vrai. Oui, ça se passe en Angleterre. Sa famille camerounaise est un peu occidentalisée, mais elle est un peu entre deux. C'est-à-dire que, oui, d'accord, sa mère n'a pas trop de problèmes avec le fait qu'il soit gay, mais attention, mon fils, il faut pas que tu le montres trop, il faut pas que tu t'affiches trop. Alors que le personnage d'Eric est justement hyper extravagant,
exubérant.
Ouais. Il ne s'excuse pas d'être gay. Ouais. Je trouve ça vraiment
très
cool. Et
justement, il y a
cool.
une... Alors pareil, on va peut-être laisser un peu le suspense, mais il va avoir une relation avec un autre personnage de la série qui lui au contraire est très bloqué dans sa sexualité, se pensait hétéro et découvre qu'il est attiré par des hommes. Il y a toute la problématique du coming out.
Exactement. Et puis on parle beaucoup de ce personnage qui est gay, mais il y a d'autres personnages. Il y a par exemple un couple de lesbiennes qui est un personnage récurrent, un peu plus secondaire, qui sont des personnages plus secondaires mais qui sont récurrents quand même. Ils interviennent notamment sur la problématique de la masturbation féminine. Il y a aussi
autre sujet tabou et dont on parle vraiment récemment, en fait.
C'est ça. Il y a aussi des personnages, c'est vrai, on parlait de genre, des personnages non-binaires dans la dernière saison. Donc, il y a un traitement des questions en rapport avec le genre, notamment de la dysphorie de genre. Alors, expliquer. Qu'est-ce que c'est la dysphorie ? Donc, la dysphorie, c'est un profond sentiment de mal-être qui survient quand la personne...
n'est pas en accord en fait avec genre.
Quand la personne voit son corps qui n'est pas en accord avec le genre qu'elle s'identifie.
Ouais. Donc il y a un rejet violent. Hein,
c'est ça. Donc c'est souvent quelque chose que ressentent les personnes transgenres ou non binaires en voyant par exemple un corps très masculin alors qu'on s'identifie à un genre féminin. Il y a un profond sentiment de mal-être en fait.
Ouais.
On aimerait avoir des seins, on aimerait ne pas avoir de barbe, ou au contraire on aimerait ne pas avoir de seins, ou on aimerait avoir de la barbe. Et donc il y a par exemple un personnage non binaire qui s'assume et qui va un petit peu peut être le mentor d'un autre personnage non-binaire qui est un peu plus timide, notamment en lui indiquant l'existence des binders. Alors qu'est-ce que c'est un binder ? C'est une sorte de sous-vêtement qui va compresser la poitrine, notamment pour masquer les seins, en fait. Donc c'est très important pour les personnes transgenres et non-binaires, justement, qui ne souhaitent pas avoir de poitrine, qui peut un peu faciliter, ou du moins apaiser un petit peu leur crise de dysphorie.
Oui, et puis justement, qui leur permettent d'avoir un passing féminin ou masculin.
Exactement.
Donc le passing, c'est-à-dire qu'on passe pour, on a l'apparence, et en société, on ne va pas nous remettre en question en tant que femme ou en tant qu'homme, dans l'identité qu'on affiche.
Exactement.
Alors qu'on ne sait pas ce qu'on a entre les jambes, et peu importe en fait.
Peu importe en effet. Hein.
Mais justement, la dysphorie de genre, elle intervient aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des femmes transgenres, par exemple, avec un passing de femmes, mais qui ne sont pas opérées, qui ont encore des organes génitaux masculins, et qui vont justement avoir une dysphorie quand elles se regardent et qu'elles voient un pénis.
Oui, c'est ça, ou dans leur douche, ou...
Ou avec leur sexualité, qui vont du coup
c'est
ne
ça.
Pas être à l'aise.
Ou en entendant leur voix même, parce que souvent leur voix, elles ont une voix grave, une voix d'homme qui a muet, et alors qu'elles ne souhaitent pas, ou alors elles voudraient démuer, enfin...
Ouais. Et alors ça me fait penser cette dysphorie de genre à notamment au film de Céline Sciamma, Tomboy, je sais pas si tu l'avais vu, où c'est justement, alors à la base c'est une petite fille je crois, mais qui a les cheveux courts, qui se sent garçon, et qui, alors le film est très beau, j'avais emmené une classe de 5e le voir, j'avais eu un peu peur des réactions, et en fait ça avait fait naître plein de débats, c'était génial.
C'est cool,
les
ça.
Enfants avaient été très ouverts parce qu'ils avaient 12 ans, ils avaient l'âge de la petite, hein,
oui,
je crois, où elle avait
en
un
plus
an
de moins. Oui.
C'est ça, elle avait un an de moins, 11 ans. Et en fait, le film est très bien fait parce que je crois que c'est parce qu'elle a un peu un look à la garçonne que quelqu'un la prend pour un garçon et lui dit « Tu t'appelles comment toi ? Tu veux venir jouer au foot avec moi ?» Et le prend pour un garçon et elle joue le rôle. Et en fait, elle se découvre plus à l'aise en garçon. Et il y a des scènes... alors, qui peuvent mettre un peu mal à l'aise, parce que c'est vrai qu'on voit le corps de petite fille dénudée, on voit son sexe à l'écran, et il y a une scène où elle veut aller se baigner avec ses copains. Elle a fait croire qu'elle était garçon, elle a donné un autre prénom, et elle se dit « mince, le maillot de bain, comment je vais faire ?» Donc elle se fabrique un petit sexe en pâte à modeler pour faire une petite bosse dans le slip de bain qu'elle pique à son petit frère, ou non, je crois qu'elle a une petite sœur d'ailleurs. Mais bref, il y a toute une réflexion sur comment m'intégrer en tant que garçon alors que je suis fille.
Et ben d'ailleurs, pour l'anecdote, pour la question du passing, justement, pour en particulier les hommes trans, donc qui ont des organes génitaux féminins, mais qui aimeraient être plus masculins, il existe par exemple des espèces de sexes en plastique ou en silicone pour pouvoir faire genre dans les vestiaires ou à la piscine, par exemple, et ainsi cacher qu'ils ont une vulve. Donc oui, on retrouve des stratégies qui existent dans la vraie vie, en fait.
Ouais. Alors, justement, on va se faire une petite coupure musicale sur le thème de... En tout cas, la transidentité ou... oui, c'est ça, la dysphorie de genre, etc. Donc, c'est un titre de Monokini, « Mon papa ne veut pas ». On s'écoute ça.
We'll be right back.
Voilà, donc c'était Monokini avec le titre « Mon papa ne veut pas ». Vous êtes toujours sur les ondes de Diversité FM dans l'émission Cinémag. Je suis avec Quentin et nous évoquons le cinéma queer. Et dans ce deuxième volet consacré à ce thème, nous abordons plus précisément la question de l'ouverture à d'autres choses qu'à l'homosexualité et notamment à la question de la transidentité et du genre, autre que seulement l'orientation sexuelle. Alors on va passer en revue peut-être très rapidement ce qui nous
quelques références.
Voilà, quelques références pour des jeunes qui aimeraient justement voir des séries sur ces thèmes-là.
Exactement. Eh bien, je peux vous proposer Umbrella Academy. En fait, je vais pas faire le synopsis parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais dans cette série, en fait, l'actrice qui joue le personnage de Vanya a fait son coming out trans. Donc dans la vraie vie. Donc l'acteur du coup s'appelle Elliot Page maintenant.
Anciennement Ellen Page que vous avez pu voir dans Juno.
En effet. Donc un acteur très bien installé, très reconnu, qui a fait son coming out trans. Et donc dans cette série, le personnage de Vanya qu'il joue va aussi faire son coming out trans dans la saison qui est censée arriver prochainement.
C'est un cas quand même particulier, c'est-à-dire que les scénaristes s'adaptent au changement de l'acteur.
Exactement, je trouve ça vraiment très novateur et vraiment très, très bien finalement parce que ils essayent de respecter l'acteur, ils essayent de respecter son identité et justement c'est l'acteur en profite justement pour amener d'autres problématiques dans la série, pour la complexifier, pour rajouter des choses à dire finalement.
Donc voilà, la vie rencontre la fiction, c'est assez intéressant.
Exactement. Deuxième référence, AJ and the Queen. Alors, AJ and the Queen, avec notamment dans le rôle principal RuPaul,
que vous connaissez peut-être. Il faut que j'aille voir ça. J'adore.
Il faut que t'ailles voir ça.
Ah oui.
Très très bonne série, je recommande. Donc RuPaul, que vous connaissez peut-être comme la drag queen.
Mamaru.
Exactement. Qui présente le show, l'émission de télé-réalité RuPaul's Drag Race. Mm-hmm. Donc qui est une émission de télé-réalité où des drag queens sont en compétition pour avoir le titre de la meilleure drag queen. Donc un show que je recommande chaudement. Que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que là, on retrouve RuPaul dans la fiction. Donc, une série qu'il a co-créée, d'ailleurs. Et donc, dans cette histoire, déjà, on voit le quotidien précaire de drag queen. Donc, les drag queens, c'est qui ? C'est des personnes, enfin, c'est des artistes qui font des performances de genre, qui performent le genre. Donc, pour les drag queens, qui performent le genre féminin. Donc en reprenant les clichés, en reprenant les normes, mais en les modifiant, les exagérant, en les remettant en cause. Donc à ne pas confondre avec des travestis, par exemple.
Oui, c'est vrai que j'avais employé le terme dans la première émission, mais c'est vraiment le terme un peu vieilli.
Exactement.
Et pour,
C'est ça. Donc aujourd'hui, on parle plutôt de drag queen ou de drag king.
Oui, c'est vrai.
Et donc, AJ and the Queen, en plus de traiter la question des drag queens, l'autre personnage principal, AJ, donc qui est une petite fille, ne souhaite pas être une petite fille. Parce que être une petite fille, c'est nul. Être une petite fille, on a moins de droits que les garçons. Les garçons, on les écoute plus que les petites filles. Et donc, il y a toute une réflexion sur les rôles sociaux, sur le rapport entre les genres. Et donc, du coup, AJ ne souhaite pas être une fille. On ne sait pas si AJ est trans, si AJ est non-binaire, si AJ est juste féministe,
elle sort,
en fait.
Elle sort des cases.
Elle sort des cases.
Oui, il y a la question sociale
qui vient. D'ailleurs, c'est une petite fille qui se coupe les cheveux très courts, qui a la langue bien pendue, elle n'hésite pas à ouvrir sa bouche. Mm-hmm. Et donc, elle est totalement à contre-courant des clichés des petites filles.
D'accord.
Sinon, rapidement, la série Pose.
Je ne connais pas du tout ça.
Alors, c'est une série excellente, encore une fois, qui se passe plutôt dans le quotidien des ballrooms, le quotidien de la scène du voguing
aux
États-Unis.
Alors ça, il faut que tu me réexpliques, parce que le terme je connais mais je ne me souviens.
Alors pour faire simple, le voguing c'est un type particulier de danse et d'expression corporelle qui reprend des poses de magazines, reprend et qui a été inventé par les communautés queer et racisées dans le New York des années 80. Et donc la ballroom c'est quoi ? Et ben en fait donc dans la scène du voguing, vous avez tout un système de maisons où des personnes, en fait, qui à la base se font chasser de chez elles parce qu'elles sont queer, eh bien, créent des sortes de familles entre elles. Donc, elles créent du lien. Mm-hmm. Et donc, ces maisons s'affrontent donc sur des scènes, sur des battles de danse, sur des battles de défilés de mode. Il y a plein d'épreuves comme ça, très artistiques, c'est très beau, c'est très coloré. Et c'est dans cette ambiance-là qu'on suit des personnages trans, des personnages gays.
Ouais.
Je passe rapidement, mais encore une fois, une ambiance très particulière qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais si vous aimez RuPaul's Drag Race, si vous aimez ce genre de show très queer, je pense que Pose peut vous intéresser. Ensuite, je veux bien parler du film Colette.
Ah bah oui, parce qu'on en revient à la littérature.
On en revient à la littérature. Donc Colette, c'est une autrice du fin 19e,
oui,
début 20e.
Ouais.
Oui, non, c'est pas les bonnes dates. Et donc le film Colette, c'est un biopic sur la vie de cette écrivaine française. Donc biopic qui n'est pas français, par contre, attention. Et donc, on retrouve en fait toute la vie de Colette. Donc, Colette, fille de la campagne, qui se marie avec Willy, qui est un citadin, un écrivain, qui va l'introduire dans le monde de la haute société.
Un homme très moderne pour l'époque.
Très moderne pour l'époque, mais très ouvert d'esprit, mais attention, plutôt manipulateur.
Oui,
toxique,
alors
attention.
Justement, explique-nous un tout petit peu.
Eh bien, disons que Colette donc, montre très vite un talent pour l'écriture. Et donc, Willy, qui dirige une maison d'édition, va profiter de son talent d'écriture pour publier des livres à son nom, en effaçant le nom de Colette.
Mmh.
Et donc, il va connaître la gloire, il va connaître la richesse grâce à Colette, mais en ne reconnaissant pas, en fait, le travail de Colette. Et donc, Colette a la particularité aussi, en plus d'être une excellente écrivaine, d'être bisexuelle. Et donc, dans le film, on voit qu'elle a des relations avec plusieurs femmes. Et notamment, vers la fin, on a même une mention de la transidentité.
Oui.
Donc, dans un, on rappelle, dans un Paris fin 19e, début 20e,
oui, oui.
Colette a une relation avec le personnage de Missy. Missy, qui est-ce ? C'est une femme de la haute société qui est connue pour s'habiller en homme, pour s'habiller en costard.
Ouais.
On en avait un peu parlé.
Ouais.
Et qui a les cheveux courts et qui dirige son domaine. Et vers la fin du film, en fait, Missy commence à utiliser des pronoms masculins. Donc, est-ce une erreur ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est un choix du réalisateur ? On ne sait pas. Mais c'est vrai que ça interroge sur la transidentité.
Oui, donc toutes ces séries ou ces films, hein, Colette, c'est avec Keira Knightley, pour ceux qui voient. Donc quand même, c'est intéressant que les États-Unis aient pris justement l'histoire d'une écrivaine française.
Qu'on connaît très peu en France quand même.
Alors si, les profs de lettres connaissent, mais c'est
alors,
vrai
les profs de lettres, mais c'est vrai que le grand public, personnellement, je connaissais pas Colette.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai qu'on l'étudie assez peu. Mm.
Ça
dépend quel prof. Mais c'est vrai que... On privilégie d'autres auteurs masculins souvent.
Ouais, c'est vrai.
Et je trouve ça très rafraîchissant de connaître une nouvelle autrice.
Ouais. Alors, moi, je voulais rajouter... Donc, on a parlé de la question de la transidentité, même des transitions d'un genre à l'autre. Et il y a quand même pas mal de films sur la question. Alors oui, donc on avait évoqué un petit peu la problématique de la transition et de la transidentité, de passer d'un genre à un autre, et dans sa chair, en fait. Hein, et donc, qui dit chair dit peau, et je pensais au film d'Almodovar, La piel que habito, donc la peau que j'habite, si on traduit l'espagnol. Je sais pas si tu as vu ce film.
Je l'ai pas vu, non, en effet.
Eh ben, je pourrais te prêter le DVD.
Oh.
C'est assez dérangeant. Alors justement, pour le coup, c'est le thème, mais qui n'est pas abordé de façon très positive, puisque... Ah oui, mais je vais te spoiler.
C'est pas grave.
Bouge tes oreilles. En fait, c'est l'histoire d'un chirurgien esthétique qui va... Il y a une histoire de vengeance, en gros. Je dis pas pourquoi, comme ça laisse un peu le suspense, mais en gros, il va se venger sur un homme en le transformant en sosie de sa femme, de sa défunte femme.
D'accord.
Et donc, il va, le droguer, enfin bref, l'enfermer, le séquestrer et l'opérer. Et il va devenir une très belle femme, il va même s'éprendre un peu d'elle. Enfin, il y a tout un truc sur le mythe de Pygmalion, de comment former la femme idéale. C'est à la fois de la vengeance, puis il se retrouve piégé. Bon, voilà, et j'en dis pas plus, mais c'était super violent parce que, en fait, c'est une transition involontaire contre le consentement de la personne. Donc, c'est assez original comme traitement du sujet.
C'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Enfin, parce que la plupart des. Enfin, quasiment, je pense que toutes les transitions qui sont faites, pour des personnes. personnes transgenres sont faites de façon volontaire, en fait. Ouais. Donc,
Et donc, voilà. Donc là, c'est super original. Mm-hmm. Et je vous invite vraiment à aller voir ce petit bijou. Enfin, moi, j'ai adoré, mais ça peut mettre mal à l'aise des gens.
Non, mais j'adore être mal à l'aise. Donc, franchement,
c'est parfait. Alors, dans le registre, il y a un film récent qui est sorti l'année dernière ou cette année, en début d'année, je ne sais plus. A Good Man, de Marie Castille, mention char. Donc, d'ailleurs, c'est une réalisatrice. Et c'est avec l'actrice Noémie Merlant, donc qui joue le rôle de Benjamin, enfin en tout cas un homme trans. Hein, à la base, c'est un personnage lesbien qui est en couple avec Aude et puis qui va entamer sa transition et devenir Benjamin. D'ailleurs, l'actrice est bluffante dans son rôle puisque c'est une actrice hein, cisgenre et elle incarne un homme à l'écran. Je pense qu'ils lui ont modifié sa voix synthétiquement c'est bluffant, c'est vraiment
d'accord.
Il y a des gens dans la salle moi, qui n'avaient pas compris parce qu'il y a certains codes qui montrent qu'elle a pas encore son identité, ses papiers, mais les gens en fait certains ont été choqués de découvrir que c'était en fait une femme au milieu du film. Enfin,
d'accord.
Au début il y a une sorte de suspense et donc il y a un autre film qui traite de ce sujet, c'est Girl de Lucas Daunt. Donc c'est un film belge et néerlandais sorti en 2018 et alors il avait été d'ailleurs récompensé, hein, remporté la caméra d'or sous la catégorie Un certain regard. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film, je suis tombée par hasard sur Arte je crois dessus, et c'est l'histoire d'une ballerine en fait transgenre, enfin qui est une femme trans. Donc c'est un acteur homme qui le joue. Alors l'inverse de dans A Good Man où c'était Noémie Merlant qui jouait un homme. Alors on a reproché plusieurs choses à ce film. On a reproché le fait que il y a une sorte de de voyeurisme parce que il y a des plans justement sur les parties génitales, il y a tout un truc de dysphorie de genre avec le pénis à camoufler avec du scotch en se faisant mal parce que il y a aussi tout le rapport au corps que peuvent avoir les ballerines qui mutilent.
Oui.
Moi j'ai trouvé ça très beau, mais je comprends un petit peu les polémiques. Et puis surtout, il y a le débat, et ça tu vas me dire un petit peu ce que t'en penses, c'est est-ce que un personnage trans doit être joué par une personne trans?
Je pense pas qu'il soit absolument nécessaire d'être forcément trans ou même LGBT de façon plus large. Jouer un personnage trans ou pour même faire un film parlant de ces questions.
Parce qu'on est d'accord qu'au cinéma, on compose. Normalement, un acteur, il ne joue pas ce qu'il est.
Exactement, exactement. Mais il est nécessaire que dans ce cas, si l'acteur, l'actrice ou si le réalisateur n'est pas trans, il faut que cette personne connaisse sa place. Il faut qu'elle s'éduque sur les questions. Donc, de la même manière qu'un homme connaîtrait pas ou mal la misogynie ou qu'une personne blanche ne connaîtrait pas ou mal le racisme.
Ouais.
Il faut que cette personne sache que son point de vue est très faillible sur cette question-là et que donc pour un film réussi, il faut s'enquérir du témoignage de personnes concernées. Il faut lire des livres sur le sujet. En fait, réaliser tout un travail de recherche et d'information pour éviter de blesser les personnes concernées.
Parce que oui, en effet, il peut y avoir des critiques même sur... j'en ai entendu, moi, qu'il y avait un débat à l'issue du film et justement des personnes soit LGBT, soit qui avaient des amis et qui disaient non mais ça, dans la vraie vie, ça ne se fait pas. Non mais là c'est... Enfin voilà. Et qui du coup critiquait. C'est comme justement un prof qui regarde un film sur l'éducation et sur... En fait quand on est dans le milieu, on voit les petits détails et ce qui n'est pas crédible.
Exactement. Et ce qui est d'autant plus crucial, c'est que pour un sujet aussi sensible, aussi touchy, si je puis dire, il faut que le film se donne la volonté d'être réaliste au maximum.
Ouais, ça, c'est
pour éviter de véhiculer des clichés, de véhiculer des fausses idées.
Ouais.
Par exemple, justement, le film a été accusé de voyeurisme, et donc, en fait, c'est la reprise d'un cliché, d'une image transphobe. C'est l'obsession de savoir ce qu'il y a entre les jambes d'une personne transgenre.
Oui, mais en même temps, alors je te coupe, mais en même temps, ça existe. Enfin, ça, c'est le reflet d'un regard cis porté sur des personnes trans, et je vois, hein, je conçois ce que ça peut avoir de transphobe, mais en fait, c'est un peu humain de tout de suite se dire, face à l'inconnu et face à quelque chose qui nous dépasse parfois, de se poser la question. La limite est de justement ne pas le faire, en fait. Enfin, je veux dire, la pensée nous vient, mais...
Oui, c'est ça, je pense que la pensée peut venir à tout le monde, et bon, c'est vrai, on est curieux, et puis quand on connaît pas trop le sujet, c'est vrai qu'il faut rappeler que les personnes transgenres, bon, déjà, il y a tout un historique avec l'institution médicale, médical où c'était considéré comme une maladie mentale. Ouais. Et puis ensuite, avec la notion de travestissement, ça a été considéré comme un fantasme sexuel. Donc c'est vrai que c'est un truc qui fascine.
Une perversion.
C'est
un
ça,
peu.
Un truc quelque chose qui fascine, mais qui ouais. dégoûte un petit peu. Enfin, c'est un petit peu l'image, vous m'excuserez, de la femme à bite.
Les ladyboy.
C'est ça, les ladyboy. Donc tout ça, ça crée une forme de curiosité malsaine que subissent les hommes et femmes trans. C'est à cause de cette curiosité mal placée que ces personnes trans, par la suite, ont du mal à se projeter dans une vie amoureuse et sexuelle saine, car elles sont toujours réduites à leurs organes génitaux.
Mais justement, je trouve que le débat est très intéressant et en fait, on a le mérite de débattre en fait.
Oui, c'est ça.
Heureusement qu'il y a un débat et qu'il n'y a pas un des camps qui serait détenteur d'une vérité unique.
Non, bien sûr, il faut du débat, mais il faut quand même faire attention. Il faut pas faire du débat pour faire du débat. C'est-à-dire qu'il faut que le débat reste constructif. Donc il faut pas juste faire un film transphobe pour faire
exactement,
du débat.
Ouais.
Il faut essayer quand même d'être un petit peu renseigné sur la question, de soulever des problématiques qui existent en vrai.
Alors, on va peut-être enchaîner. Et t'avais peut-être d'autres exemples sur les séries queer.
Alors c'est vrai, il s'agirait d'ouvrir encore un petit peu plus et d'aller encore plus sur le terrain de la normalisation. Donc par exemple, c'était plusieurs exemples en fait de franchises qui essaient de faire des efforts. Par exemple Marvel, ce qui peut vous étonner, mais Marvel dans un de ses derniers films, donc The Eternals, réalisé par Chloé Zhao. Donc, une femme en plus, ouais. Sortie en 2021. Dans ce film Marvel, l'un des personnages principaux secondaires est un homme gay, donc qui a un mari et qui a un enfant, et c'est justement son mari et son enfant deviennent sa motivation pour se battre, pour protéger la Terre, etc. Le scénario est pas excellent, mais il a le mérite d'innover un petit peu en proposant un personnage qui n'est pas hétéro, et quand on sait l'influence que peuvent avoir
les films très mainstream, les blockbusters,
surtout Marvel, Marvel ça a façonné des consciences, ça a façonné des générations, et c'est vrai que les voir faire des efforts en proposant des personnages pas hétéros.
Puis il y a le côté super-héros, justement, enfin héroïsé.
En plus, exactement, c'est une facette qu'on voit pas souvent associée aux personnes queer, parce que le super-héros, c'est celui qui doit être fort, celui qui doit être pas faible, sans peur. C'est des clichés.
Mais j'ajouterais même que ce qui est intéressant là dans ce que tu as dit, alors moi j'ai pas vu le film, mais j'irai le voir parce que ça me rend curieuse, c'est le fait aussi que ce soit une personne gay installée dans une famille avec enfant. Parce que longtemps, on a eu aussi ces couples gays qui vont en boîte, qui sont libre comme l'air, indépendant, enfin dans
exactement.
Le cliché en fait, des célibataires éternels.
C'est vrai qu'il y a une représentation un peu à contre-courant où ça montre une image de stabilité en fait. C'est vrai que quand on regarde les films qu'on a évoqués dans le premier épisode ou un petit peu précédemment, à la fin, les personnes queer, elles n'ont pas de situation stable.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est assez positif de voir que ce personnage gay est installé. C'est un père de famille, c'est un mari, il a une vie, je dirais pas banale, parce que ça reste un super-héros. Il a le mérite d'exister.
Ouais. Et alors, je rebondis sur ça, parce que tu parlais de grandes franchises. Il y a quand même les Animaux Fantastiques 2 qui viennent de sortir. 3, pardon.
Attention.
Ah oui, c'est vrai, 3. Les Secrets de Dumbledore, de David Yates.
Ouh.
Et justement, on avait déjà vu dans les premiers volets qu'il y avait sans doute une homosexualité de Dumbledore. Donc, je rappelle, hein, c'est le sorcier qui tient Poudlard, qui est le directeur de l'école Poudlard dans Harry Potter. Et là, on a en fait des films qui reviennent sur sa jeunesse. Et là où on avait reproché, c'est ce que tu m'avais dit, hein, d'avoir été un peu timoré sur les premiers épisodes, d'avoir juste sous-entendu l'homosexualité, ah bah là, on y est allé carrément.
Là, on y est allé un peu plus loin. Il n'y a pas encore le mot gay ou...
Je crois
qu'il n'est pas prononcé, du moins dans la version française.
Ah non,
française.
Mais c'est l'amour. Enfin, en tout cas, il y a l'amour.
Oui, voilà, mais...
Il y a des rapports...
Il joue encore un petit peu avec la ligne du sous-entendu, mais ils assument quand même un peu plus.
Voilà. Mais parce que c'est grand public, c'est enfant, il y a de toute façon jamais de rapport sexuel montré à
non, bien sûr que non, mais c'est vrai que ils ont un petit peu cédé aux revendications des fans en fait de la série qui demandent.
Et tant mieux, c'est bien comme quoi les fans peuvent faire pencher la balance en fait.
Exactement.
En exigeant des choses.
C'est ça, mais faut pas oublier non plus que le fait que le Dumbledore soit gay, en fait, on revient à la question du pinkwashing. Parce que à la base, Dumbledore, dans les livres écrits par J.K. Rowling, aucun indice n'irait vers le fait que le Dumbledore soit gay. En fait,
à part le fait qu'il n'était pas marié ni
c'est ça,
avec
mais
des enfants. Enfin.
C'est ça, mais à part ça, rien ne le sous-entendait. Et c'est vrai que c'est J.K. Rowling qui a profité un petit peu de toute cette cette mouvance pour
alors,
dire
que... Il y a la polémique, enfin, on n'en parlera pas parce que c'est encore compliqué.
Mais c'est vrai que J.K. Rowling, avec les polémiques récentes, qui a révélé qu'elle était transphobe. C'est vrai que les Harry Potter, maintenant, ont une place un petit peu particulière au sein de la communauté queer, parce que justement, Harry Potter, c'est un petit peu l'histoire du garçon qui n'est pas comme les autres, qui est reclus, littéralement est dans le placard.
Oui, c'est vrai.
Toutes les personnes queer ont pu se reconnaître un petit peu dans Harry Potter, et le fait qu'après, il découvre un monde où les gens sont un peu comme lui, il devient plus heureux, en fait. Et c'est un petit peu une histoire de personnes queer, sans dire le mot queer. Et le fait que J.K. Rowling s'avère être une personne transphobe, c'était un gros coup pour la communauté trans et LGBT dans son ensemble.
Tiens, ça me fait penser, là, quand tu me dis, c'était quelque chose dans lequel les queer pouvaient se reconnaître, mais ça n'était pas dit. On avait discuté là des films où c'était queer encodé. Tu disais que finalement il fallait déchiffrer, ça n'était pas.
C'est vrai.
Et on a parlé des Disney notamment.
C'est vrai que certains Disney reprennent des topos queer un petit peu, des pas des clichés mais des images de la mythologie queer. C'est-à-dire que par exemple la Reine des Neiges
libérée, délivrée du mensonge.
Exactement.
Hein,
Vous remplacez ses pouvoirs magiques par le pouvoir du lesbianisme. Vous avez une histoire de coming out.
Mulan, c'est... comme un homme.
Exactement, c'est quelqu'un qui se présente comme une fille et qui doit se faire passer pour un homme, qui apprend les codes pour être un homme, en fait. Et donc, c'est vrai que c'est une histoire qui a, je pense, donné pas mal matière à réflexion pour pas mal de petits garçons trans ou même des questionnements plus féministes.
Alors, on va essayer d'avancer, de finir. Tu avais peut-être d'autres séries, à les mentionner.
Juste rapidement, on peut citer la série Brooklyn Nine-Nine, qui est une sitcom américaine.
J'adore l'humour.
Je l'aime beaucoup, l'humour. J'adore cet humour en plus. Mais c'est vrai que dans cette série, on a deux personnages queer. Tout d'abord, le personnage de Rosa, qui est une femme, mais qui est un petit peu à contre-courant des clichés de femme. C'est-à-dire qu'elle est motarde, elle parle avec un ton dur, une voix grave. Elle est très sarcastique, très cynique.
Elle est resting bitch face.
Resting bitch face, exactement.
C'est-à-dire que le visage ne bouge pas et très dur, pas souriante comme on demande aux femmes tout le temps.
Exactement, et c'est vrai que Rosa, au fil de la série, on dévoile qu'elle est bisexuelle et elle sortira avec une femme d'ailleurs plus tard.
Et puis alors
le personnage gay de cette série, c'est le capitaine Raymond Holt.
Et qui est capitaine et qui est noir.
Qui est capitaine, il est vraiment, il casse un peu les codes, les barrières, parce que c'est une personne gay, mais il est au pouvoir.
Ouais.
C'est le chef, c'est celui qui dirige. Aucun cliché gay, c'est-à-dire que c'est une personne apathique, il n'a aucune émotion.
Alors c'est l'inverse de la cage aux folles qu'on avait passé dans la première émission.
C'est l'inverse de la cage aux folles. Pour le coup, il est totalement apathique, il est très strict, très ponctuel. Il est fan de grands classiques comme de l'opéra, ou il est très fan de statistiques aussi. C'est un personnage très cultivé, très, très bourgeois finalement. Mais c'est vrai que il n'a pas du tout le même rapport aux émotions qu'on attribue à la plupart des hommes gays. Et c'est vrai que la série, qui est comique donc, adopte un angle assez intéressant, parce que on parle très peu de discrimination finalement. Les seules fois où on parle de discrimination, c'est dans des flashbacks de Holt, où il est en mode de mon temps j'étais noir et gay, donc c'était difficile. Disons qu'il y a une bonne ambiance dans la série est assez bon enfant, et donc ça fait plaisir, parce qu'on voit une représentation positive.
Exactement,
en fait
ça participe de la normalisation.
Exactement,
c'est-à-dire en fait il pourrait très bien ne plus y avoir ces questions de harcèlement et de différence.
Exactement. Même ton chef au boulot peut être gay, même ta collègue peut être gay, et en vrai ça se passe bien, je veux dire, c'est les mêmes
le
personnages
ensemble.
Exactement. ça donne cette image là. Et donc je voudrais vous parler aussi d'une référence qui va se démarquer un petit peu du classement. C'est un petit peu mon petit bijou à moi, mon petit bébou. La série, c'est un dessin animé. La série s'appelle Luz à Oswille, donc en anglais The Owl House, donc créé par Dana Terrace et qui est sorti en 2020. Donc c'est un dessin animé où on suit l'aventure de Luz Nerseda, donc qui est une enfant qui adore le fantastique, l'histoire de magie, qui est un petit peu dans son monde et qui, par un concours de circonstances, se retrouve projetée dans un autre monde, un monde où la magie est très commune. Elle va faire la rencontre de plusieurs sorciers, elle va se lier d'amitié avec plusieurs sorciers et vivre plein d'aventures. Au fil de la série, il est montré que Luz est bisexuelle et elle va tomber amoureuse de Amity, qui est une sorcière lesbienne. Et donc elles ont quoi ? Elles ont 12 ans, hein, mais c'est vrai que c'est assez rafraîchissant de voir ça, parce que c'est une série, enfin c'est un dessin animé pour les enfants,
ouais,
mais ça éduque dans le sens où ça montre des personnages queer. Donc l'héroïne, c'est d'ailleurs la première héroïne principale de Disney, c'est produit par Disney, à être ouvertement LGBT.
Ouais, d'accord.
Et il y a même d'autres personnages queer dans les, enfin au fil de la série, il y a un personnage non binaire d'ailleurs.
Très bien. Qui arrive. J'irai voir ça parce que ça me.
Elle est vraiment intéressante et même si c'est un dessin animé pour les enfants, ne vous fiez pas à ça parce que le scénario est très subtil, les personnages sont très complexes, il y a vraiment un très bon traitement des questions abordées. Le scénario est très bon, même si on est un adulte, ça se regarde vraiment très très bien. Et voilà, je voulais en parler parce que finalement, on parle vraiment de séries pour les adolescents, on parle de films pour adultes, mais c'est vrai qu'il commence à y avoir des dessins animés pour enfants, par exemple. Et c'est important de donner des images, des représentations aux enfants aussi.
Des petits, adaptés à chaque âge,
exactement,
bien sûr.
Parce que, évidemment, adaptés à chaque âge, il n'est pas question de relations sexuelles dans ce dessin animé. Mais c'est important d'avoir de la représentation parce que finalement, on s'en doute pas, mais c'est que ce genre de questionnement arrive très jeune. Je me souviens, moi, j'ai commencé à m'interroger sur ma sexualité à partir de mes 9-10 ans. Mm-hmm. Ça arrive très jeune. Et je sais qu'il y en a, c'est même encore avant. Il y a des témoignages de personnes trans vers 6-7 ans, ils commencent à s'interroger sur leur genre, ils se disent non, je pense pas être un garçon.
Justement, moi je vais rebondir et partir à l'inverse de toi, c'est-à-dire parler d'une série mais qui a un peu fait scandale parce que justement c'est un peu pas interdit au moins de 18, je sais même pas, mais en tout cas elle a des scènes de sexe explicites, on voit à l'écran des appareils génitaux, hommes, femmes, des seins, des relations sexuelles très explicites, voire un peu brutales, donc attention à ne pas mettre devant n'importe quel regard. Et il s'agit de Euphoria. Alors pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je suis tombée amoureuse de cette série là qui est diffusée depuis 2019 sur HBO, une chaîne américaine, et donc on l'a, je crois, sur OCS en France. Donc série américaine réalisée par Sam Levinson. Alors j'ai appris en faisant des recherches que c'était adapté d'une mini-série israélienne. Donc franchement,
ah ouais, israélienne.
Ouais. Et voilà. Et donc ça met en scène la génération Z, les lycéens qui vont explorer différentes expériences, des traumatismes, des questions sur l'identité, les relations amicales, amoureuses, l'addiction, puisque le personnage principal joué par Zendaya, donc qui s'appelle Roux,
les roux, on y revient.
Mais c'est moche, R-U-R-U-E.
Ouais.
Et donc elle est bipolaire, elle est addicte à la drogue, elle est lesbienne, enfin bon voilà.
Si je peux faire la comparaison, est-ce que c'est pas un Sex Education, mais en beaucoup plus sombre ?
Oui, je dirais ça. Mais alors vraiment, et puis moins explicite, parce que justement, en fait, c'est plus fin. En fait, on nous montre des contre-exemples. Je vois les rapports qui sont très, très brutaux, où on sent qu'il y a l'influence du porno sur les nouvelles générations. Il n'y a pas quelque chose de didactique qui va nous dire ce n'est pas bien, ce n'est pas la vraie vie.
Ouais, il n'y a plus le côté éducation,
exactement.
Finalement.
En fait, c'est l'implicite. C'est par l'implicite. Donc, c'est pour ça que je disais ne pas le mettre entre les mains de jeunes adolescents. C'est trop tôt, à mon avis. Alors, j'en parlais parce que, pour le coup, on a le couple principal donc de Zendaya et Hunter Schaefer, qui donc joue Jules, qui est une jeune femme transgenre, non opérée, dans la série en tout cas, et qui le dit, je crois qu'il y fait allusion, mais qui a un passing de femme et qui est magnifique. Enfin, c'est une très belle jeune fille. Et elle forme un couple avec Rue. Enfin, c'est encore un petit peu, on sait pas trop. Et pareil, il y a de la bisexualité qui rentre en ligne de compte. Enfin bref, c'est compliqué. Mais en tout cas, Hunter Schaefer est né garçon. Et justement, c'est un personnage transgenre joué par un vrai transgenre. Et donc, ça a été une vraie revendication de la communauté LGBT. Et alors moi, je vous dirais juste pour vous convaincre d'aller la voir que c'est une beauté au niveau esthétique, la photographie, les lumières. C'est juste magnifique. Il y a des plans, mais dignes de films, d'arrêt d'essai. Il y a une musique très présente. Et justement, l'originalité, et on va en écouter un morceau, c'est qu'il y a presque un seul artiste qui fait toute la BO. C'est Labyrinth. Et donc vraiment il y a des musiques qui se retrouvent d'épisode en épisode, il y a des acteurs exceptionnels avec un charisme de fou, des looks magnifiques, et on revient un peu au look de Sex Education d'Eric, des maquillages à paillettes. Je trouve qu'en ce moment il y a une nouvelle mode, et je le vois chez mes élèves ou chez des gens qui ont 20 ans, et vraiment ce maquillage où on va faire des traits, on va redessiner l'œil,
on voit très graphique,
exactement,
mais finalement
un peu années 80 mais revisité.
Mais je pense qu'il y a aussi peut-être une influence, bah, par les drag queens, justement.
Oui.
Les drag queens,
ouais,
qui sont, entre autres, très connues pour leur maquillage très extravagant, ouais, avec des fards à paupières qui vont jusqu'aux tempes.
Exactement.
Et donc, moi, je pense qu'il y a une influence,
ouais, je
sur...
Je pense aussi. Et j'ai été frappée par ça. Et vraiment, je retrouve, ça arrive, alors que ça avait commencé en 2019, mais là, dans les cours de lycée, ou à la fac, je vois des élèves, filles ou garçons, des fois, hein, d'ailleurs, qui se maquillent, qui portent des boucles d'oreilles. Et donc, on finit en beauté avec ce titre de Labyrinth featuring Zendaya, qui chante également avec lui, qui a repris la chanson de All For Us, qui est le final de la première saison et qui est juste magistral. Et puis on se quitte avec ça. Au revoir et puis à la prochaine. Au revoir Quentin et merci d'avoir fait l'émission avec
merci
moi.
Merci beaucoup de m'avoir invité, c'était un honneur. J'ai beaucoup apprécié faire cette émission. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices.
On espère, et d'ailleurs vous pouvez nous réécouter donc en podcast, sur internet, sur le site, et puis écouter l'émission donc, qui passe le mardi et le samedi à 17h et puis le jeudi à 20h. Donc retrouvez-nous toutes les semaines et puis on se retrouve pour une nouvelle émission. À bientôt.
Au revoir.